Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission culinaire de France Culture qui aborde la cuisine comme fait culturel majeur. Les Bonnes Choses, c'est 30 minutes, tout compris, avec un plat du jour, une madeleine, une cerise sur le gâteau. Cerise sur le gâteau présentée aujourd'hui par l'ami Pierre Hiverna de la plateforme des cultures du goût Alimentation Générale, notre partenaire. Bonjour Pierre.
Bonjour Caroline.
La chronique, la cerise sur le gâteau aujourd'hui.
Eh bien, je vais vous parler d'un chef d'un autre siècle.
C'est tout à l'heure, à 12h25, l'autre siècle. Matteo Caranta, qui est bien de son siècle. Bonjour à vous.
Bonjour Caroline.
Pour vous, c'est la madeleine aujourd'hui. Qui donc nous raconte sa madeleine?
Eh bien, je me suis rendu à la Fondation Cartier à Paris, où j'ai été reçu par le nez de la maison, Mathilde Laurent.
Et ça, c'est à 12h15 tout à l'heure, mais restez avec nous, Matteo, puisque nous allons fêter un anniversaire, celui d'un célèbre guide qui a transformé l'approche de la bonne cuisine, inventée il y a 50 ans par un duo gourmand. L'un s'appelait Henri Gault, l'autre Christian Millau, d'où son nom, le Gault-Millau.
On est assailli aujourd'hui, dans la vie moderne, par tellement de choses infâmes. Alors ça, c'est peut-être aussi le problème de la publicité qu'il faudrait évoquer, mais aussi par la facilité. C'est une espèce de bombardement perpétuel, de tentation perpétuelle pour le médiocre. Et c'est vrai dans la vie quotidienne. On ouvre une boîte parce que c'est plus simple. Et finalement, eh bien, on se livre entièrement à des choses que l'on ne connaît pas. Et je crois que c'est ça, la gastronomie, c'est de choisir. Donc, moi, je peux très bien ne pas manger pendant 3 jours, mais en revanche, je mangerai une chose qui sera bonne, enfin une salade, mais au moins ce sera une bonne salade.
Moi je crois, au contraire de Christian, je crois qu'il faut avoir faim, c'est-à-dire que la partie alimentation, se nourrir, qui est en effet quelque chose de laid, de déplaisant, est indispensable pour devenir un véritable gourmand, disons, à défaut d'un gourmet.
Bonjour Marc Esquerré.
Bonjour Caroline.
Merci
bonjour
beaucoup
à tous
d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vous le directeur des guides Gault-Millau, dont la version 2020 est sortie le 5 novembre dernier. Et bonjour à vous Jean-Bernard Magescas.
Bonjour Caroline Brouet.
Et bienvenue dans cette émission. Alors vous ne pouvez pas ne pas manger pendant 3 jours. Vous êtes
non.
Un chroniqueur culino-gastronomique.
Je mange toutes les 3 heures, comme un bébé.
Voilà, c'est ça. Oui. Et aujourd'hui, vous œuvrez au journal L'Opinion.
Absolument.
Marc Esquerré, on entendait les deux voix à l'origine de ce guide Gault-Millau. Vous les avez reconnus, Christian Millau, Henri Gault. On fête les 50 ans, mais il faut peut-être préciser les choses parce que je croyais que le journal avait été fondé en 72, ce qui ne nous ramène pas à
alors,
50
le guide
ans.
Le guide en 72, le magazine et l'appellation Gault-Millau datent de 1969. On a donc fêté le 50e anniversaire. Mais le premier guide, qui devait s'appeler encore le guide Julliard, est paru en 72 avant de s'appeler le guide Gault-Millau, le nouveau guide Gault-Millau.
Vous voulez bien nous raconter cette aventure Gault-Millau? Alors pas toutes les années, parce qu'il y en a, j'en ai déjà à peu près 10 pages sous les yeux de cette histoire. Nous n'aurons pas assez de notre demi-heure pour raconter toute cette histoire. Mais déjà, dans quel contexte est né ce guide?
En fait, c'était deux amoureux de la gastronomie. D'ailleurs, l'extrait qu'on a entendu, je trouve qu'il est quand même très actuel. C'est bien.
C'est pas pour rien qu'on l'a choisi avec le réalisateur.
C'est bien de dire que se nourrir, c'est avant tout un plaisir nécessaire. Et faut rappeler que le goût, chez nous pauvres humains, est quelque chose d'essentiel. On a besoin de goûter des choses bonnes. Et c'est absolument indissociable de notre vie quotidienne. Donc, rappeler que quand on mange, on fait un acte militant finalement. Aujourd'hui, on parle beaucoup de santé, on parle beaucoup de produits, mais il y a 50 ans, c'était la même chose. Et aujourd'hui, goûter quelque chose de bon, c'est forcément quelque chose de bon pour soi, bon pour le corps, bon pour l'âme.
Jean-Bernard Magescas, vous n'étiez pas né quand le guide a paru. Vous étiez né quand le guide a paru. Il existait déjà le guide Michelin, au moins.
Avant le Gault-Millau, Christian Millau et Henri Gault ont écrit le guide de Londres, avec des adresses à Londres. Et donc moi, le premier guide que j'ai eu dans les mains, écrit par Christian Millau, c'était le styliste.
Ils étaient journalistes, tous les deux.
Oui, mais Christian Millau était vraiment Stendhal. Et ils ont écrit un guide sur Londres, mais génial. Et quand on le lit, aujourd'hui, on voit l'incroyable chemin qui a été parcouru, pas nécessairement pour le mieux. Eux donnaient des adresses où on allait manger le meilleur canard à l'orange. Comme à la maison, on se disait, tiens, qui dans la famille fait le meilleur poulet rôti du dimanche? C'était encore une époque comme ça, où on cherchait la perfection d'un plat quand on allait au restaurant. Et on n'avait pas honte d'aller au restaurant pour manger un poulet rôti, et il serait meilleur que celui que je fais à la maison, parce que le gars, ben, c'est le roi du poulet rôti. Alors qu'aujourd'hui, bon, ça a beaucoup changé. Il y a plus d'esbrouf, il y a la pince à épiler dans la poche pour mettre des fleurs. J'ai une copine qui dit toujours, moi je suis pas venu becter chez mon saufleur. Ouais, elle a raison, Qu'est-ce que c'est que cette pince à épiler dont on se sert plutôt qu'une...
Tu vois, et en même temps, si Marc je peux me permettre, Go et Millau ont beaucoup participé à faire évoluer la cuisine.
Bah, ils ont fait évoluer, mais bien.
Oui, mais ils ne sont pas restés au poulet rôti. Ils ont fait aussi avancer.
Ils ont fait évoluer autant la cuisine que la critique gastronomique,
oui, tout à fait.
Vous diriez.
Oui, la critique gastronomique, elle a commencé avec eux. C'est-à-dire que ça a été les premiers à produire des guides où on écrivait, où on racontait une histoire.
Pas le Michelin. C'est toujours Michelin, la référence, le Michelin.
Le Michelin racontait pas d'histoire, décernait des trophées, accordait des étoiles. Mais il n'y avait pas de texte. Bohemio était les premiers à raconter ce qui se passait dans un restaurant, dans une assiette.
Et vous dites qu'ils ont contribué à faire évoluer la cuisine. Ils ont été les découvreurs de ce qu'on a appelé nouvelle cuisine.
Voilà, c'est ça. Ils ont été les co-inventeurs avec évidemment un certain nombre de chefs.
Robuchon, voilà. Michel Guérard, Gagnère, bien sûr. Qui sera notre invité dimanche prochain, au passage.
Tout à fait. Ils ont beaucoup contribué à faire évoluer cette cuisine. C'est eux les premiers qui ont dit les sauces sont trop lourdes. Bon, le poulet rôti du dimanche, c'est excellent. Effectivement. Et on est encore en train de le chercher.
Le plat préféré de Joël Robuchon.
Mais ils ont beaucoup aidé à ce que des cuisiniers deviennent de véritables stars. Et même s'il y a quelque part une forme de perversion à dire le chef est devenu la vedette incontestable et on fait des classements mondiaux maintenant du meilleur chef du monde ou de la planète ou de l'univers, ils ont beaucoup fait avancer cette cuisine, et notamment la cuisine française, en faisant émerger quantité de chefs que vous avez commencé à citer.
Et avec un certain nombre de commandements, j'ai vu Jean-Bernard Mage.
Dix commandements
de Guémio, par exemple, tu ne cuiras pas trop, tu allégeras ta carte, tu seras inventif.
Ils étaient caricaturés comme étant les inventeurs du poisson rose à l'arête.
Oui, voilà.
Qu'on vous servait dans un restaurant. Jusque-là, tout était souvent trop cuit. Pour nous, aujourd'hui, on pourrait pas, je pense, manger, déguster, savourer ce qu'on mangeait en 1965 dans la plupart des restaurants en termes de cuisson. Ça nous paraîtrait beaucoup trop cuit. Avant même les sauces, la richesse des sauces, beaucoup de crème, beaucoup de beurre, etc. Très gras, très, très abondant, planqué dans la sauce. Mais il y avait la cuisson. Et on les caricaturait comme le poisson rose à l'arête. Et il y avait des gens qui gueulaient dans les restaurants. Moi, j'ai vu ça. Ils disaient, moi je veux mon poisson cuit.
Vous disiez dans le Goemio, à la différence du Michelin par exemple, on raconte des histoires, on a toujours raconté des histoires et donc c'était aussi des plumes. On y retrouvait Gilles Pudlowski qui
bien
a
sûr.
Lui-même fondé son propre guide ensuite. On y a retrouvé François Simon, Pascal Rémy. Comment aujourd'hui, Marc Esquerré, devient-on critique dans le guide Goemio?
Vaste question.
Il faut savoir écrire.
Faut savoir manger. Et je dirais, faut surtout avoir la passion de ce qu'on découvre dans un restaurant. Encore une fois, le restaurant, c'est un théâtre. Moi, j'ai commencé en lisant Goemio. J'ai commencé à le lire en 1973. Et je n'ai plus arrêté. J'allais voir les restaurants grâce à ce que racontaient Henri Gault et Christian Millau. Donc, oui, évidemment, il faut savoir parler français et écrire français. Et il faut savoir manger. Je ne sais pas si c'est très facile de définir ce que c'est savoir manger. Je pense que c'est d'abord.
On peut définir ce qu'est un cuisinier pour le guide Goemio?
Oui, un cuisinier, c'est quelqu'un qui fait l'effort de transformer des aliments pour les rendre, à son sens, le meilleur possible.
Et comment fonctionne le travail des inspecteurs? Combien êtes-vous aujourd'hui, Marc Esquerra?
Comment vous
évaluez un restaurant,
etc. Vous touchez un point extrêmement important auquel je tiens, c'est qu'il ne sert à rien d'avoir 250 inspecteurs. Je dirais même que c'est mauvais. Parce que ce qu'on veut, c'est de la cohérence. Qu'est-ce que c'est la seule qualité vraie d'un guide? C'est d'être cohérent. C'est que le 14 à Strasbourg, ce soit le même que le 14 à Biarritz. Il n'y a pas d'autre valeur. Après, vous pouvez ne pas être d'accord. Vous pouvez dire, ah non, moi j'aurais mis 12. Je vous dirais, faites donc votre guide, il sera excellent. Mais nous, on a mis 14 à ce restaurant. Et on ira... Les enquêteurs qui tournent tout autour de la France, parce que j'aime pas les baronnies, donc il n'y a pas de secteur privilégié, ils tournent autour de la France. Le principal, c'est que ces inspecteurs, qui sont en gros une trentaine chaque année, ces 30-là, je les réunis, je les vois suffisamment souvent, ils se voient entre eux, ils échangent, de telle manière que quand un met 14, les 29 autres mettraient aussi 14. Voilà, c'est ça qui est important. Donc, oui, on a une équipe resserrée, et je le revendique. Et effectivement, on peut dire, ils ont du boulot. Oui, ils ont du boulot, mais ils sont en même temps très passionnés. C'est des gens qui prennent tout leur temps libre et leurs vacances à aller visiter des restaurants. Ils font ça toute l'année, avec beaucoup de cœur, et je tiens surtout à ce que cette passion, elle reste et à l'état de curiosité et de volonté d'aller visiter ce beau pays gastronomique.
Jean-Bernard Margescas, on a commencé par l'aventure à l'origine de la création du guide Goemio. Oui. Vous avez suivi quand même l'histoire de ce guide.
Oui, le magazine en particulier.
Sur 50 ans.
Il ne faut pas confondre.
Il faut distinguer les deux.
Il faut vraiment les distinguer. Le magazine, c'est un lieu d'expression, c'est un lieu de fabrication d'une idéologie nouvelle, le magazine. Le guide, c'est la somme des efforts qui sont photographiés chaque année. Voilà. Dans le magazine, il y a eu des papiers, mais vraiment incroyables. On les lisait, on jouissait à lire le magazine. Bon, je parle toujours de Christian Millot, parce que bon, le styliste, mais et Henri Gault aussi, c'est des gars, là. Ça manque aujourd'hui beaucoup. Aujourd'hui, on est dans quelque chose, comme le disait Marc Esqueré, de starification. Et c'est un peu dommage. Il y a un certain nombre de choses qui disparaissent. Une camaraderie qu'il y avait beaucoup dans les restaurants entre les chefs. Bon, aujourd'hui, on vous rebat les oreilles ou les yeux de la célèbre photo de Roger Verger, Paul Bocuse, Michel Guérard, Alain Chapelle. Enfin, ils sont tous ensemble, ils s'entendent bien, ils rigolent, ils font les ouaves, ils vont avec les trois gros, ils vont au Japon ensemble, et ils vont à Las Vegas, ils vont dans plein d'endroits. Et cette camaraderie a un peu disparu aujourd'hui parce qu'ils se retrouvent beaucoup plus occupés qu'avant, déjà le temps, et un peu mis les uns contre les autres, en opposition.
Marc Esqueré.
Je voudrais rassurer Jean-Bernard. L'histoire d'Hugo et Millot, elle se poursuit. Elle se poursuit notamment avec des événements... alors, on connaît le gala annuel qui remet les trophées, mais il faut savoir que 6 fois dans l'année, on organise ce qu'on appelle le Gaumillot Tour à travers toute la France. Et il y a dans 6 régions. Et justement, cette réunion de toute la profession, on continue à l'assurer. Et c'est vrai qu'il y a encore cette forme d'estime, de transmission, d'échange entre les chefs. Là, on a fait un Gaumillot Tour près de Bordeaux. Étaient là Michel Tramin et Michel Guérin, qui étaient un petit peu les patriarches, mais en même temps des gens qui ont tellement donné à cette profession. Et ben les jeunes chefs étaient là avec des yeux comme à Noël, et l'échange qu'ils peuvent avoir avec ces chefs-là comme entre eux est très très bénéfique. Et quand on a 200-250 chefs qui viennent de toutes les régions autour de Bordeaux, donc Aquitaine, Occitanie, etc. Et je trouve que c'est très intéressant de garder justement ce rapport privilégié que les chefs ont entre eux et que nous, modestement, on peut assurer comme intermédiaire.
Et un rapport avec les chefs, puis un rapport avec le public, les gens qui vous lisent. Est-ce que de ce point de vue-là, le public a changé aujourd'hui avec les nouvelles technologies, avec Internet,
oui,
les guides sur Internet, je vais en citer quelques-uns et je vais vous poser la question après.
On a commencé à en parler.
Sert encore à quelque chose d'avoir
classement
un guide
de tout.
Jaune
il y a 70 millions de sélections d'équipe de football, comme il y a 70 millions de critiques gastronomiques. Bon, voilà, il faut vivre avec. C'est-à-dire que chacun donne son avis.
Mais ce n'est pas encore plus difficile de sélectionner
le vrai sujet. Sujet.
Oui, c'est un sujet majeur parce qu'évidemment, il faut que tout le monde s'exprime. Amateur, professionnel, le principal c'est de bien séparer les deux. Qu'est-ce que je cherche moi dans un restaurant? Si je cherche le meilleur poulet, je vais peut-être pas me fier à ce que me dit mon voisin ou mon pharmacien. Et je vais peut-être essayer de lire ce que me dit Hugo et Millot, et puis je vais lire 4 ou 5 avis de lecteurs sur tel restaurant, et puis je me ferai mon idée moi-même. Mais ce qui est important, je pense, c'est que il y ait à un moment donné une parole d'expert, je sais pas si on peut dire expert, mais enfin de quelqu'un dont c'est le boulot à longueur d'année.
Quelle est la plus value, Jean-Bernard Majescas, d'un guide comme Guémio aujourd'hui?
Je pense que les guides ont, pour la plupart, loupé ce coche à un moment. Et alors maintenant, ils courent un peu derrière. C'est-à-dire le côté participatif d'un public plus ou moins compétent, aguerri. Mais ça veut dire quoi, la compétence? Ça veut dire aller au resto 2 fois par semaine, 1 fois par jour, 3 fois par mois? Comment on devine qu'un palais éduqué peut, à nous rendre service en nous disant « là, j'ai été là, c'est absolument formidable, c'est génial, c'est dans une cour, au fond d'une campagne perdue, et là, il y a une mémé, elle fait des trucs. » Bon, c'est ça qu'on attend, souvent, quand on aime becter. Mais la plupart des gens vont peu au restaurant. Ils y vont soit dans le restaurant du quotidien, parce que c'est près de leur boulot et que leur maison n'est pas là, ils rentrent pas chez eux pour becter à midi, donc ils vont au restaurant. Là, dans ce restaurant-là, ils vont peu dépenser, parce que c'est le truc du quotidien, et c'est tous les jours, etc. Les fêtes vont plutôt avoir lieu chez eux qu'au restaurant. C'est quand même ça aussi la réalité de la grande majorité de nos concitoyens.
Et vous dites, les guides n'ont pas suivi
et
cette évolution.
Quand l'Internet, quand le web a commencé d'avoir ces applications du type Facebook et d'autres, qui permettent justement de participer, de faire des trucs, les blogs avant, vers 2004-2005, ils n'ont pas su saisir ça. Et là, je sais de quoi
c'était
je parle.
C'était pas forcément leur rôle.
Je les ai tous vus. Non, oui, c'était pas leur rôle. Du coup, se sont engouffrés là-dedans des gars qui ont pris les choses d'une manière différente, qui ont dit, il y a des tas de gens qui vont au resto partout dans le monde, qui y vont 3-4 fois par semaine. Ça va d'un mannequin de défilé. Vous avez des critiques culinaires du World 50 Best, et les trucs de restaurants, machin, OAD, tous ces trucs-là, des grandes listes mondiales, qui sont des mannequins, parce que les mannequins, elles voyagent, et elles s'ennuient, elles veulent aller becter, voilà. Donc, aujourd'hui, tout ça, ça crée une espèce de confusion générale, et moi, j'aime les guides, curieusement, trempé dans la plume, parfois acide, de magazines, où je me dis, tiens, il y a un ton, il y a une idéologie, il y a quelque chose en quoi ces gens-là croient,
et
je peux me retrouver là-dedans, même si je ne me retrouverai pas toujours dans toutes leurs notations ou critiques.
Bon, ça, j'ai les deux mains en l'air pour vous interrompre.
Bah, ça me rappelle mon école, j'étais comme ça.
J'ai les deux mains en l'air pour laisser passer la Madeleine, et on vous réentend juste derrière. Vous écoutez les bonnes choses sur France Culture.
À notre connaissance, il n'y a pas deux meilleurs restaurants, ça n'existe pas. Il y a des repas, le souvenir des repas.
Et le souvenir culinaire, peut-être pas d'un repas, mais d'un plat, aujourd'hui, d'un nez, donc le nez de quartier, Mathéo Carantin.
Oui, Mathilde, Laurent qui expose au Louvre à Abu Dhabi un objet sans ans non identifié qui invite les visiteurs à grimper le long d'un escalier pour traverser différentes hauteurs et températures, mais elle ne m'a pas reçu au Louvre à Abu Dhabi, mais dans son bureau à Paris. Un bureau plein d'éprouvettes, de béchers, rempli de fleurs artificielles. Et si je vous parle des fleurs artificielles, c'est parce que pour Mathilde Laurent, comme en parfumerie, en cuisine, c'est le mélange entre nature et synthétique qui est important. Et pour ça, Madeleine, eh bien, elle est remontée un souvenir sucré qui l'a hanté au point qu'elle en a fait un parfum.
Ma Madeleine, c'est les îles flottantes de ma grand-mère, parfumées à la vraie vanille. Et donc, ma grand-mère nous recevait tous les dimanches. Et en général, elle commençait à cuisiner pour ce repas du dimanche, parfois le vendredi. Et comme j'avais la chance de vivre avec elle, en fait, je pouvais accompagner et voir les plats se préparer dans sa cuisine. Rien que d'en parler, en fait, je suis dans la cuisine de ma grand-mère. Je vois le plat posé sur le buffet, je vois les couleurs, je sens et je me rappelle parfaitement même de la texture en bouche. C'est une texture en fait un peu granuleuse, c'est-à-dire que c'est pas une crème anglaise ultra fluide comme du lait. C'est quelque chose qui se situe entre la purée, j'ai envie de dire, mais une purée très diluée. Donc il y a de la matière, il y a un petit peu des grumeaux. Et cette odeur de vanille, elle est très douce. C'est pas une vanille caramélisée, c'est pas une vanille qui sent le carton mouillé comme quand on a des odeurs de gousse qui passe dans la crème. C'est vraiment une odeur de vanille qui va ressembler à des odeurs de dragée. Elle est d'un jaune pâle, en fait, qui est vraiment le jaune donné par les œufs. Donc ça aussi, ça en dit très long sur la manière dont elle a été préparée. Et ensuite, en fait, l'île flottante en elle-même, alors elle n'est pas trop ferme, c'est un blanc qui n'a pas été monté pendant des heures, c'est probablement un blanc monté à la main, donc pas aussi ferme qu'un blanc mécanique. Et c'est un blanc qui a été cuit donc dans l'eau bouillante, donc les bords ne sont pas bien définis. Et là, en fait, on a vraiment le goût du blanc d'œuf cuit. Et c'est ce contraste, en fait, qui est très intéressant entre le blanc un peu salé, presque iodé, c'est drôle, parce qu'on est proche peut-être même d'un glutamate de sodium, du goût umami en fait. Et c'est ce contraste en fait qui est très intéressant entre le goût de la crème anglaise et le blanc légèrement salé, légèrement iodé.
Alors Marc Esquiré, parmi les 3200 restaurants et bistrots du guide Gomillot 2020, qui fait la meilleure île flottante, selon vous?
Il y a d'excellentes pâtissières et pâtissiers. Je dis pâtissière parce que Jessica Préalpato a été notre lauréate cette année. L'île flottante, c'est un exercice de style qui est, comme le feuilleté, pas donné à tous les pâtissiers. Donc, je vais pas prendre parti. Je vois la photo d'Arnaud Donquel, il a un excellent pâtissier.
Arnaud Donquel, voilà. C'est le cuisinier élu de l'année après Alexandre Mazzia à Marseille en 2019, Jean Sulpice en 2018, Alexandre Couillon en 2017, puisque chaque année, le Gomillot décerne donc le titre de cuisinier de l'année. Et vous savez quoi? Il est avec nous au téléphone, Arnaud Donquel. Bonjour Arnaud Donquel.
Bonjour à tous.
Merci beaucoup d'être avec nous dans Les Bonnes Choses sur France Culture.
Avec plaisir.
Vous êtes chef à la Vague d'Or, à l'hôtel Cheval Blanc à Saint-Tropez. Chef de l'année, cuisinier de l'année 2020 par le guide Goemio. Enfin, dit le guide Goemio dans l'article qu'il vous consacre, il vous a mis 19 sur 20. Vous n'avez pas l'impression de vous retrouver tout d'un coup sur les bancs de l'école quand même avec cette note-là?
Bon, on est habitué d'être sur les bancs de l'école tous les ans. On vit avec ça et puis voilà. Mais on est heureux en tout cas parce que tout ça, c'est surtout un travail d'équipe et avant tout une affaire de région, de produits, d'hommes et de femmes. Voilà.
Qu'est-ce que ça représente le Goemio pour vous, sachant que vous avez par ailleurs 3 étoiles au Michelin?
C'est une validation vers l'excellence avec mes équipes. Et j'ai un grand souvenir assez mémorable d'un repas avec tous les 19 au Goemio qu'on avait fait à l'époque où je travaillais, je vous parle de ça, il y a plus de 20 ans, chez le doyen, avec tous les 19 de région qui étaient venus chez le doyen. À l'époque, c'était Gisèle Darabian qui était le chef de le doyen. Et quand je voyais ces grands acteurs du goût, jamais j'aurais pu espérer les rejoindre.
Le Goemio dit de votre cuisine, Arnaud Donquel, que c'est un mouvement, une vague. Elle juge votre cuisine poétique. Votre plat culte, c'est le Chopin de Liche façon Victor Petit. Ça, c'était du nom d'un journaliste et critique gastronomique d'avant-guerre. Qu'est-ce que c'est une cuisine qui ressemble à une vague poétique?
C'est toujours difficile de parler de ses créations, de ses plats, de son propre travail, de se juger soi-même. Tout ce que je sais, c'est que je veux qu'elle soit le plus sincère possible, la plus honnête, parce que pour moi, la meilleure des cuisines, c'est celle qui vient du cœur et qui est extrêmement sincère. Voilà.
Eh ben, on va demander à Marc Esqueré, le directeur des guides Goemio, de définir la cuisine poétique et la vague que représente cette cuisine qui touche à l'universalité, dites-vous.
Oui.
Enfin, c'est peut-être pas vous qui écrivez l'article, en l'occurrence,
Marc Esqueré. Oui, en fait, parce que la cuisine d'Arnaud, elle a l'air assez complexe, comme ça. C'est-à-dire que les plats sont très pensés, très construits. Et en même temps, elle a une ligne directrice, c'est-à-dire que c'est une vague, effectivement. On revient toujours à l'essentiel. Qu'il travaille sur un poulpe, sur un denti, un poisson de Méditerranée, ou sur un légume, à chaque fois, on revient à l'originel du légume. S'il travaille la tomate, le plat va être extraordinairement compliqué et graphiquement magnifique. C'est pour ça aussi que je pense qu'il y a une part de poésie dans son travail. Mais on revient toujours au cœur de la tomate et c'est ce qu'on veut. Quand on est en pleine saison et qu'il y a un travail merveilleux sur les tomates et aujourd'hui on a plusieurs sortes de tomates pour varier les goûts, quand on s'attaque à ce fruit, eh ben, il faut que à la fin du plat, on soit revenu presque comme un enfant à la première fois où on a croqué dans une tomate quelque chose qui vous explose en bouche, le jus, la chair, toute la saveur de la tomate, elle est concentrée. Et lui, il sait très très bien faire ça. C'est-à-dire qu'à la fin du plat, on est comme un enfant et on se dit, oui, c'est exactement ça, la tomate.
Vous voyez, Arnaud Donquel, pourquoi Marc Esqueré dirige le guide Goemio. Merci beaucoup, Arnaud Donquel, d'avoir témoigné à ce micro.
Merci à vous tous.
Et bravo quand même pour ce 19 sur 20. Juste une petite question pour terminer, Marc Esqueré, dans les 50 ans qui viennent encore du guide de Goemio. On va se tourner vers l'avenir maintenant. Il se trouve que j'ai repris la liste des chefs cuisiniers de l'année depuis 81 et que je n'y ai pas trouvé une seule femme et que dans votre supplément de 109 établissements, il y a 9 femmes seulement. Est-ce qu'on peut faire le souhait, le vœu, que dans les 50 années prochaines, les femmes seront plus présentes dans le Goemio?
Je suis très heureux que vous posiez cette question. Alors, le problème, c'est que je ne peux pas réécrire l'histoire passée. Aujourd'hui, les grands chefs, ceux qui ont fait la cuisine française des 50 dernières années, c'est tous des hommes. On peut citer Anne-Sophie Pic et Hélène Darroze qui sont deux grandes chefs au féminin, mais elles ne sont que deux. Il y en a d'autres, Stéphanie Lequellec, il y a des pâtissières, alors de plus en plus. Moi, je vous fais le pari que ce métier va devenir aussi bien féminin que masculin. Aujourd'hui, il y a énormément de pâtissières de talent, il y a énormément de sommelières de talent, on a une sommelière comme sommelière de l'année, et des chefs, il va y en avoir de plus en plus. Simplement, au départ, ça a été, c'est vrai, davantage un métier d'homme. Et peut-être que dans 50 ans, on aura 70% de femmes et 30% d'hommes. Et vous me direz, parce qu'on sera tous là dans 50 ans.
Espérons-le.
Voilà. Gageons-le. Et vous me direz, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas autant d'hommes que de femmes?
Gageons-le. Vous avez parlé des pâtissières. On va passer à la cerise sur le gâteau. Marc Esqueré
très
et Jean-Bernard Majescas, restez avec nous pour écouter la cerise sur le gâteau de Pierre Hiverna. Eh bien justement, Pierre, on revient dans le passé avec une figure de chef, un chef masculin.
Absolument. Cette semaine, Caroline, je voudrais profiter de votre présence, cher directeur du Goemio, et de celle d'un chef célébré par votre guide, pour vous parler d'un ancêtre dont aucun d'entre vous ne peut sérieusement contester la légitimité, le grand, l'immense Auguste Escoffier. Et l'occasion m'en est donnée avec la parution du livre d'Élodie Polo-Ackermann intitulé « Auguste Escoffier, la vie savoureuse du roi des cuisiniers ». Alors vous me direz, ce n'est pas le premier ouvrage consacré à l'artiste et sans doute pas le dernier. Mais jusque-là, les auteurs qui se sont penchés sur ce personnage d'exception l'ont fait à travers des yeux d'historiens, de cuisiniers ou avec un souci d'exhaustivité de biographes, réservant ainsi leurs livres à des lecteurs plutôt connaisseurs ou passionnés. Rien de tout ça avec Élodie Polo-Ackermann, qui est productrice notamment pour Arte, et qui nous offre là une histoire palpitante, même si vous vous foutez totalement de la gastronomie et de son histoire. Et d'abord et avant tout pour une raison très simple, c'est qu'elle lit perpétuellement la petite histoire du cuisinier avec la grande histoire, ou plus précisément montre comment Auguste Escoffier va passer en 89 années de vie de l'une à l'autre. Il faut dire que quand on commence son premier travail d'apprenti à 13 ans dans un restaurant qui s'appelle, ça ne s'invente pas, le restaurant français, et que celui-ci est installé rue Paradis, c'était à Nice, les dieux sont déjà avec vous. Et les dieux, Auguste, qui vient de faire sa communion, il y croit. C'est d'ailleurs l'un des points sur lesquels l'ouvrage donne un éclairage intéressant. Car si l'on évoque régulièrement le chef comme l'inventeur de l'organisation moderne des cuisines en brigade et comme le créateur d'innombrables recettes comme la célèbre pêche Melba, moins connues sont les nombreuses conversations d'Escoffier avec Zola, qui se documentait à l'époque à Londres sur les classes ouvrières tout en logeant au Savoie dont Escoffier était le chef star. Et l'Escoffier mettant en place un régime de protection sociale pour les cuisiniers retraités, ou un système anti-gaspillage avec les petites sœurs des pauvres de Londres, et d'une modernité politique époustouflante pour l'époque, voire d'une modernité tout court. Et puis un autre Escoffier émerge également, celui qui a compris que la cuisine elle-même ne suffit pas, mais qu'il faut la réinventer et la communiquer. Tiens, ami du Goemigo, si je vous lis cet extrait d'un éditorial, je cite... On ne cuisinera plus jamais comme autrefois. Une cuisine nouvelle est née. Il faut des hommes nouveaux et une grammaire culinaire moderne. Henri Gault et Christian Millau annonçant l'avènement de la nouvelle cuisine en 73? Non. Le texte est de 1883 et c'est celui du premier numéro de la revue bimensuelle L'Art culinaire dans laquelle Escoffier prendra une part déterminante. Escoffier le communicant avait également compris la force plus que poétique du nom de ses créations avec son hommage à la cantatrice Melba, mais je ne résiste pas à vous en livrer d'autres comme le consommé Hélène dédié à la princesse d'Aoste, les cailles Carmen en hommage à Bizet, les fraises Mireille, la poularde Adelina Patti ou un mystérieux rêve de Katinka qui désignait une mousse de merlan aux écrevisses sans que l'on en sache plus sur cette Katinka.
D'où la nécessité de revenir à l'histoire, malgré tout, de retracer l'histoire de cette cuisine et des guides,
bravo,
des histoires qui l'accompagnent. Merci beaucoup Marc Esquerré d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup Jean-Bernard Majescas. Merci à vous Pierre. Et on retrouve bien sûr votre chronique sur le site de France Culture et sur le site d'Alimentation Générale. Et bien sûr, les bonnes choses se poursuivent en réécoute, en podcast, sur le site de France Culture. Toute l'équipe, Stéphanie Villeneuve, Virginie Leduo, Roxane Poulain, Matteo Caranta, Jean-Christophe Francis et notre technicienne du jour, Maïwenn Lejouan, vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, c'est le journal, suivi de Signes des Temps par Marc Weissmann.